recevons aujourd'hui deux étudiants, Lucas Lecomte et Diane Basile. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes tous les deux étudiants du DUT Information Numérique dans les organisations, voilà, IUT de Tours. Alors, tout d'abord, est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi consiste votre formation ?
Alors, notre formation, c'est une formation en communication. Donc, en fait, il y a deux formations en communication à Tours, à l'IUT. Il y a l'option communication des organisations et l'option organisation numérique dans les organisations. Et en fait, nous, on est la deuxième formation. La première formation sera plus portée dans la publicité et le côté extérieur en fait, et nous en numérique on sera plus dans la recherche d'informations ou même dans la production de contenu audiovisuel en fait, tout en ayant une petite branche dans l'archivage, parce que c'est à la base notre formation c'était tout ce qui était documentation et archivage, mais du coup aujourd'hui ça tend plus vers le numérique pour s'adapter avec le marché du travail.
Alors concrètement, ça consiste en quoi cette formation ? Donc c'est sur 2 ans, et vous faites quoi pendant ces 2 ans ?
Alors pendant la première année, c'est plus une remise à niveau, parce qu'on vient tous d'univers différents en fait. Tout le monde ne sort pas du bac, même s'il y a une majorité. Et du coup, il y a une approche pour avoir la logique dans la recherche d'informations, dans la création. Et après, c'est... La formation est plus un tremplin sur les métiers de demain. En fait, on ne se spécialise pas vraiment. On découvre des métiers et des matières. Et en fait, à l'issue de l'IUT, on se spécialise plus dans nos formations. En fait.
Pour la première année, il s'agit plus du côté théorique de la chose. On nous propose des cours auxquels on n'a jamais eu droit, on va dire, en études supérieures. Donc, on a des cours, par exemple, de veille. On a des cours de PAO, donc les cours de PAO c'est comme une approche aux différents logiciels de création de contenu digital. Donc on utilise des logiciels de la suite Adobe, du style Illustrator, Photoshop. Pendant aussi toute la première année, on a 3 ateliers différents. Donc on a un atelier de radio, dans lequel on doit créer une émission de radio en binôme avec quelqu'un de notre classe. Ensuite on a la création de vidéos. Et ensuite, on a aussi la création et la manipulation de photos. Donc, on nous donne à chaque fois un thème à exploiter pour mener au bien le projet. Et donc, tout cela, ça nous permet un peu de, au cours de la première année, de se familiariser un peu avec les différents thèmes de l'audiovisuel en gros.
Alors, ça débouche sur quel métier, en fait, l'un et l'autre ? Vous aimeriez faire quoi après ce diplôme ?
Alors, je vais commencer. Du coup, moi, j'aimerais partir tout ce qui est dans l'audiovisuel, ouais, la création de vidéos, de montage, effets spéciaux, peut-être, je sais pas trop.
Alors moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire et de découvrir un peu ce que j'aimais. Donc, ce que j'aime surtout, c'est la création de contenu digital. Que ça soit aussi bien la partie dessin avec du graphisme pour faire des infographies et aussi bien la réalisation de motion design. C'est le motion design, c'est l'animation de la vidéo, on va dire. Et donc, l'idéal, suite à ces études, ça serait de partir sur une licence chef de projet multimédia option design pour ensuite aller directement dans un master du UX designer.
Voilà, donc c'est vraiment des métiers, comme vous le dites, de demain. C'est vraiment l'avenir.
Oui, oui.
Donc, est-ce que vous êtes sûr d'avoir du travail, puisque c'est un secteur qui est quand même en pleine expansion, ou comment vous vous projetez ?
Aujourd'hui, ouais, le monde de la communication en tant que tel est bouché, enfin plus l'option com, mais l'option num, en fait, c'est vraiment axé sur du coup les métiers de demain, ouais, et c'est tout ce qui est veille ou même création. À l'IUT, on nous montre qu'on a... Enfin, on a plus de chance, nous, que nos collègues, en fait. Mais moi, je me fais pas de soucis.
Bah c'est des nouveaux métiers, on va dire. Donc, la place est encore disponible. Donc, je pense qu'on n'aura pas de soucis à se faire pour trouver du métier. Si on arrive à bien se spécialiser et à se faire connaître. Actuellement, les entreprises recherchent énormément de gens qui font de l'UX.
Alors, est-ce que tu peux rappeler UX ?
UX design, en gros, c'est...
Expérience utilisateur en français.
Ouais, c'est l'interface utilisateur, donc c'est rendre au maximum l'interface utilisateur la plus agréable possible à utiliser. cette personne en charge de s'occuper de l'UX design doit la rendre le plus ergonomique possible et la plus adaptée à tout utilisateur, peu importe son âge. Et donc actuellement, c'est ce que les entreprises cherchent à faire, avoir des sites à internet extrêmement clairs, extrêmement intuitifs, qui permettent aussi bien à des personnes jeunes que plus âgées de se balader tranquillement sur le site sans avoir de problème.
Voilà, et à votre avis, est-ce que vous serez amené à actualiser vos compétences tout au long de votre vie professionnelle ? Est-ce que vous pensez que vous aurez à changer de métier, voire ?
Alors, moi je pense que oui, parce que c'est du coup, vu que c'est des métiers de demain, ils sont pas forcément... Enfin, aujourd'hui, ça sera pas totalement demain, et du coup, je pense que ouais, on intègre plus la logique, et après, il faudra toujours continuer à se former pour éviter d'être dépassé dans quelques années par les jeunes qui vont arriver, quoi.
Je pense que c'est un métier où t'es obligé d'être curieux. Parce que vu que la technologie, on sait tous, c'est en perpétuelle évolution, il y a des nouveaux moyens qui arrivent, des nouveaux outils.
Ouais, faut suivre les tendances aussi.
Ouais. Si t'es pas un minimum curieux, tu vas vite être dépassé, tu vas te conforter dans ce que tu sais, et donc on va dire tu vas vite devenir has-been. Alors que c'est pas du tout le thème de cette formation et des métiers sur lesquels tu peux déboucher.
Alors, vous avez dit une émission de radio, vous avez parlé de contenu multimédia. À votre avis, qu'est-ce qui distingue vos compétences et votre filière de, par exemple, le PJT, l'école de journalisme ?
Alors, nos collègues de le PJT, eux, sont vraiment portés sur le journalisme, en fait. La semaine dernière, ils ont sorti un numéro spécial du TMV, si je ne me trompe pas, où c'était eux qui l'avaient réalisé de A à Z. Et donc, en fait, ils sont vraiment, eux, dans... Les magazines, le journalisme, que ce soit reporter ou même ceux qui sont devant ou derrière les métiers de la télé, enfin, pour donner des exemples concrets. Alors que nous, on sera plus, c'est ma vision des choses, mais sur soit des entreprises de communication ou des métiers plus stratégiques comme la veille, parce qu'on n'a pas apporté, enfin, on n'a pas abordé le sujet de la veille, mais du coup, c'est... Enfin, c'est plus eux vont plus être dans le côté presse comme on l'entend aujourd'hui, alors que nous on sera plus dans le côté communication, la communication.
J'insiste, je vous pose la question parce que c'est vrai que des fois c'est pas simple de faire la différence entre communication et presse, d'autant que vous avez quand même des compétences qui se rapprochent dans certains domaines, sur la production de contenu, sur le contenu web, et ça on attend ça aussi des journalistes maintenant, qu'ils se fassent des contenus multimédia. Donc peut-être, est-ce que vous diriez que vous êtes complémentaires ?
Alors déjà on a des cours en commun, donc oui, ça veut dire qu'on a des compétences qui sont communes. Après je pense que comme NUM et journaliste, on est tous les trois complémentaires. Si on devait prendre un exemple concret, on pourrait se dire que si on devait créer un événement, les NUM créent les affiches, les vidéos, les coms peuvent chercher les partenaires et faire une sorte de un peu de relation presse. Et puis les journalistes, eux, vont soit gérer le jour J pour
couvrir l'événement.
C'est ça. Ou en fait, on empiète chacun sur le domaine de l'autre, mais on est tous les trois complémentaires.
Alors juste un rappel quand même pour nos auditeurs qui ne seraient peut-être pas au fait de toutes ces choses. Est-ce que vous voulez expliquer la veille, c'est quoi exactement, pratiquement, techniquement ?
Alors, dans des termes plus...
grand public.
C'est ça. La veille, c'est une surveillance permanente d'un environnement. En fait, c'est une organisation publique, privée, enfin, qui a besoin d'éléments stratégiques pour ses futures décisions, en fait. Et donc il y a plusieurs types de veille, donc la plus connue c'est la veille concurrentielle, c'est surveiller les concurrents, qui fait quoi, essayer de voir les tendances. Et après il existe plein de veilles, réglementaires, veille d'image pour surveiller son e-réputation. Enfin, nous aujourd'hui tout le monde on surveille un peu sa réputation sur internet, donc c'est en fait c'est une sorte de veille, on en fait plus ou moins chacun.
Actuellement on fait de la veille sans même le savoir.
Voilà, c'est ça.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand on lit un journal tous les jours pour s'informer sur le sport, sur la musique, sur n'importe quel sujet, on fait une surveillance continue d'un domaine. Alors, soit c'est un domaine, ça va être une entreprise, soit ça va être un domaine, la musique, le sport, comme je prenais comme exemple juste avant. Enfin, c'est la veille, c'est c'est presque, enfin c'est partout et c'est presque au quotidien, mais on s'en rend pas compte. Sauf que là, nous, dans notre formation, la veille, comme on, de la manière où on l'apprend, c'est plus pour être d'un côté stratégique pour les entreprises de demain, enfin les entreprises demain, pas les entreprises de demain, parce que déjà aujourd'hui, les entreprises ils font recours, enfin ils ont recours comme avec le challenge de veille de jeudi.
Nous allons en parler, mais alors juste avant, une dernière chose. Comment vous travaillez avec les professionnels? Parce que l'idée de votre formation, c'est d'aller dans le monde du travail et pas forcément de faire des études après de recherche, quoique c'est peut-être possible. Mm-hmm. Mais comment vous travaillez avec les pros? Est-ce que vous faites des stages? Est-ce que vous êtes en apprentissage?
Alors, au cours des 2 ans d'études, on a 2 stages à réaliser. Donc, la première année, on a un stage de 5 semaines, si je ne me trompe pas, de 1 mois à réaliser dans une entreprise. Donc, bien sûr, il faut que l'entreprise soit en adéquation avec ce qu'on fait dans nos études. Donc on peut partir sur un stage aussi bien dans l'audiovisuel que dans la création de sites web, mais aussi dans l'archivage, comme a dit Lucas, plutôt vu que ça reste un peu la base de notre formation. Et le stage de 2e année, c'est un stage qui dure 2 mois. Et donc il faut aussi encore trouver un stage en adéquation avec nos études. Aussi, quand on travaille avec des professionnels, on a des intervenants pendant nos cours qui viennent nous donner des cours. Et donc, ces personnes-là nous montrent un peu ce que les entreprises recherchent, ce qu'on peut apporter suite à notre formation, enfin, suite à nos études pour les entreprises et comment on va être, c'est pas prétentieux, mais indispensable dans le monde de demain.
Alors, quel conseil vous donneriez à nos auditeurs étudiants, hein, n'est-ce pas, nombreux bien sûr, s'ils ont envie de faire cette formation?
Alors, je pense que moi, je dirais ouvert et curieux, ouais. Parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment besoin de prérequis en arrivant dans la formation, parce qu'on repart plus ou moins de zéro, mais c'est vraiment avoir, être curieux et puis même se sentir impliqué. Enfin,
pour entrer en formation, personne n'est obligé d'être une bête d'informatique. Vu que la première année, c'est plus une remise à niveau, comme on a déjà dit, tu peux juste, si t'es curieux, intéressé, et que t'es un minimum motivé, tu vas ensuite sûrement découvrir ce qui te plaît vraiment dans ce côté-là de la formation. Et ensuite, grâce à ta curiosité, tu vas approfondir les matières qui te plaisent le plus. Et donc, je pense que si c'est une filière, qui n'est pas assez reconnue, et qui...
Elle est nouvelle en fait, c'est pour ça, elle est en perpétuel changement, donc c'est normal qu'on a du mal à la connaître et même à se faire une image dans le sens où elle évolue tout le temps. Et il y a 2 ans, on pouvait parler de la formation, mais le programme a changé il y a...
Il y a 2 ans, 4 ans.
4 ans, et doit changer dans 1 an ou 2, donc c'est... C'est compliqué de se faire une idée par rapport à une prépa ou quelque chose qu'on connaît qui est plus classique.
Eh bien, merci, nous allons faire une première pause musicale.
Thank you.
Retour sur Radio Campus Tour, vous écoutez toujours Sortez, la quotidienne socio-culturelle. Et nous recevons aujourd'hui Lucas Lecomte et Tidiane Basile, deux étudiants de l'IUT de Tours, DUT Information Numérique dans les organisations. Et si vous venez aujourd'hui, outre nous présenter votre formation, c'est également pour nous parler d'un événement voilà, que vous organisez. Donc je vous laisse nous le présenter.
Alors, ça s'appelle le Challenge de la veille. C'est un challenge qui est organisé tous les ans pour les deuxièmes années des Infonumes de France. Donc, cette année, il y a 9 IUT qui participent sur 10, si je ne me trompe pas. Il y a un prestataire qui fournit un sujet donc, sur lequel on va devoir faire de la veille. Donc, comme dit précédemment, ça va dire qu'on va surveiller un environnement. Alors, en fonction du sujet, on va faire une veille plus ou moins. Enfin, on va adapter notre veille. Et on est en concurrence avec tous les autres IUT pour fournir la meilleure solution de veille et les meilleures solutions pour l'entreprise pour que demain elle reparte avec le dossier sous la main et qu'elle utilise
nos préconisations,
c'est ça.
En gros, pendant 2 semaines, chaque IUT, dans chaque classe d'infonum de tous les IUT de France se forment des groupes, donc de 4 à 5 personnes. Et ensuite, il y a une finale interne au sein de l'IUT pour choisir le groupe qui va représenter l'IUT. Donc, dans notre cas, pendant une semaine, on était un groupe de 4 et on a dû travailler sur la problématique que nous a proposée notre commanditaire. Alors, notre commanditaire, c'est STM Microelectronics. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la technologie des semi-conducteurs dans le monde. C'est une entreprise à envergure internationale. Et donc là, elle nous a donné un sujet. Donc pendant une semaine, on a dû étudier l'entreprise. Vu que c'était une entreprise qu'on ne connaissait pas, on a dû obtenir le plus d'informations possible sur cette entreprise. Donc là, on rejoint des cours qu'on a eu en première année qui s'appellent des cours de recherche d'information spécialisée. Donc là, c'est comme savoir chercher de l'information, traiter cette information, savoir si cette information elle est qualitative pour répondre à la problématique, savoir si on peut se fier à cette information.
Surtout, surtout en ce moment avec les infox, enfin les
fake news.
C'est ça, voilà.
Et donc pendant cette semaine, on travaille. Et on doit rendre un livrable à la fin de la semaine de travail, donc un livrable qui est composé de 8 pages, dans lequel on répond le mieux que l'on peut à cette problématique. Et on doit aussi rendre une infographie pour ensuite passer à l'oral et donc la meilleure équipe de ces équipes est ensuite sélectionnée pour représenter l'IUT à la finale du challenge de la veille.
Et donc là, c'est la finale qui va avoir lieu.
Exactement.
C'est ça, jeudi, toute la journée, à Télème, dans un lieu tenu secret pour les autres IUT de France pour le moment. Alors c'est à Tours parce que Tours l'a brillamment emporté l'année dernière à Besançon. Donc c'est la tradition, c'est l'équipe vainqueur qui organise la prochaine édition. Donc c'est à Tours, la finale, jeudi.
Est-ce que vous savez quel était le projet l'an dernier ? Le projet lauréat, ça portait sur quoi ?
L'année dernière, c'était une entreprise du nom de V33 qui avait été élue comme commanditaire pour le challenge de la veille. Donc l'année dernière, le challenge de la veille se déroulait à Besançon, car ils avaient remporté l'année précédente. Et la problématique exacte, c'était...
Développer le consommateur de demain. Alors je sais plus pourquoi, mais c'est parce que l'entreprise voulait diversifier son offre et faisait appel à un autre prestataire, je crois, et du coup elle voulait savoir quelle demande elle allait lui faire pour cibler au mieux ses consommateurs européens de demain, c'est ça.
Et l'année dernière, ouais, la problématique était en adéquation avec le DIY, et une mode montante, on
le
va dire.
Do it yourself.
Ouais, do it yourself. C'est une tendance, on va dire, montante de ces dernières années. Donc ils voulaient se mettre au niveau de cette nouvelle tendance.
Donc là, concrètement, c'est 300 étudiants, je crois, qui débarquent à Tours.
Alors, plus le chiffre exact, mais on est autour de 300, oui. 9 IUT avec chacun plus ou moins la promo entière, donc voilà, 300, c'est oui. Sans compter, je sais plus si on doit nous compter.
Sans nous compter, je crois. C'est 300 personnes, les 8 IUT qui sont invités, et nous sommes le 9e qui reçoit les 8 IUT.
Alors, qu'est-ce qu'on en fait, ces 300 invités, je m'imagine, parce qu'il faut les loger, comment vous avez organisé tout ça?
Alors oui, ça a été très compliqué. Enfin, ça l'est encore aujourd'hui parce qu'on n'est pas, totalement. L'organisation n'est pas totalement finie, mais du coup, alors il y a en fonction des IUT, il y a certains IUT qui, l'organisation n'est pas définie en fait pour les IUT la veille. Donc c'est chaque IUT qui s'organise tous les ans. Donc selon le budget, soit l'IUT prend un hôtel. Là, cette année, on a le cas de Besançon qui a pris l'hôtel que pour ses finalistes. Donc, les 50 autres de la promo, enfin, ils sont deux promos à venir. Je crois qu'on est sur du couchsurfing. Donc, on accueille quelques étudiants chez nous. Je pense qu'il y en a d'autres qui font du. Comment ça s'appelle
Attends, chez les autres. Guest to guest.
Non. Ton site, là.
Oh, le trou de Le site de location, de sous-location d'appartements.
Airbnb, c'est ça, Airbnb,
voilà.
Oui.
Ah, okay.
Voilà, j'ai perdu les mots. Et du coup, voilà, les étudiants arrivent la veille, parce que le lendemain matin, il faut être à 8h. Donc, les étudiants, au moins finalistes, dorment sur place. L'année dernière, Tours est arrivé que le matin même. Ils arrivent le soir. On a des représentants, on a élu entre nous des référents pour chaque IUT. Donc le jeudi, ils passent toute la journée à Télème, avec des pauses pour manger, pour se détendre. Et le soir, on a une petite soirée après l'annonce des résultats pour quand même se retrouver entre étudiants et puis voilà, fêter la fin du challenge qui est quand même assez éprouvant pour tout le monde en fait.
Donc cette journée, il va se passer quoi? Est-ce qu'une journée entière à Télème avec 300 étudiants de Télème?
On arrive, enfin les étudiants arrivent à 8h30, si je me rappelle bien.
Non, un petit peu avant, mais c'est le tirage au sort qui est fait le matin même. Il n'y a pas d'ordre pour les finalistes, en fait, c'est tiré le matin même.
Donc il y a un petit déjeuner de prévu aussi. Ensuite, chaque équipe représentant les IUT. Donc ensuite, les 9 équipes représentant les IUT de France passent à la suite, avec des pauses, bien sûr.
Donc on est à 4 équipes le matin et...
4 équipes l'après-midi, oui.
Et donc, 5 le matin et 4 l'après-midi.
Et donc en gros le jury est composé de 3 personnes de l'entreprise du commanditaire, 2 personnes qui sont des spécialistes, trois personnes qui sont des spécialistes de la veille.
Deux entreprises différentes.
Ouais, deux entreprises différentes, FLA Consultante et First Echo. Et donc en gros ces jurys vont pendant toute la journée voir les différents groupes passer. Et ils vont les noter en fonction de leur prestation orale, mais aussi de leur prestation écrite ouais. Qu'ils ont rendue au préalable avec le livrable et l'infographie.
Là, donc ça, ça mobilise des compétences très différentes quand même, parce qu'entre produire un contenu écrit qui peut être excellent, c'est autre chose de savoir le présenter à l'oral. Donc c'est peut-être pas toujours évident en fait, de se retrouver face à une salle comme ça.
Surtout avec 300 étudiants hyper surmotivés pour motiver son équipe, c'est sûr que...
C'est pour ça que la deuxième semaine du challenge de la veille, après avoir rendu le livrable, elle est consacrée uniquement à la préparation orale du groupe. Donc aussi bien à comment ils vont mettre en place leur oral, aussi bien la préparation du slide qu'ils vont faire défiler, enfin du PowerPoint. Et c'est là où, on va dire, tout se joue, la préparation de l'oral, quoi, la prestation orale.
Ce serait quand même dommage qu'un projet aussi soigné ne rende pas sa valeur parce qu'on angoisse ou...
Alors, il y a l'exposé oral, mais il y a les questions des jurys après. Donc, même si on stresse, même si on oublie quelque chose, les jurys vont sûrement reviennent souvent. Alors, plus ou moins de manière sympathique sur des points abordés dans le dossier ou pas abordés dans l'exposé oral, et donc on a une petite chance de se rattraper si vraiment on a tout loupé, mais généralement tout se passe bien quand même, les étudiants sont prêts pour les oraux quoi.
Bah oui.
Et les étudiants pendant tout le déroulement de ces 2 semaines de travail sont coachés par des profs de chaque IUT qui des spécialistes de la veille ou des coachs ensuite pour enfin des professeurs qui les coachent ensuite pour l'oral, pour la rédaction du livrable. Enfin, les groupes sont fortement aidés et bien soutenus par les professeurs.
Là, ça, c'est un point à signaler aussi quand même, que vous êtes entouré de professeurs bienveillants qui ont envie.
Exactement, oui.
Je crois que c'est assez manifeste quand même à l'IUT, ça, cet engagement des équipes éducatives.
Ouais, il y a une proximité entre les étudiants et les professeurs. Alors, pas avec tous les professeurs, évidemment, mais il y a vraiment cette relation gagnant à gagnant entre les professeurs qui nous enseignent la logique et nous qui évoluons en même temps que la technologie. Et du coup, il y a une sorte de partage de la connaissance qui est hyper enrichissante. Et je pense que pour eux et pour nous, humainement, c'est aussi quelque chose de très bénéfique.
C'est vraiment un événement dans lequel je pense que nous, on apprend à mieux connaître les professeurs. Et les professeurs ont tendance à mieux nous connaître aussi, parce qu'on se divise aussi bien les responsabilités que le travail. C'est vraiment, on se met la contextualisation d'un événement qui est super enrichissante pour nous et notre formation, car nous, on apprend surtout la théorie et tout ça. Et donc là, c'est vraiment l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Et donc, ça nous permet aussi de se projeter dans un futur pour voir si l'organisation d'événements, c'est toujours pas si facile que ça, de voir les problèmes en interne, en externe, de savoir résoudre les problèmes rapidement, etc. Donc, c'est vraiment une mise en situation incroyable.
Oui, parce que quand même, sur un projet comme ça, il y a aussi tout ce qui est gestion d'équipe, parce que c'est pas toujours simple de travailler avec des gens peut-être qu'on connaît pas très bien, avec lesquels on n'a pas spécialement d'affinité, mais n'empêche qu'on est dans un contexte professionnel, et donc c'est de se dire que plus tard, on n'aura peut-être pas le choix non plus. Et du coup, faut gérer ça aussi, donc j'imagine que c'est pas simple non plus.
Alors oui, c'est pas simple, parce qu'en fait, comme partout, on prévoit toujours plein de choses, et puis au final, on s'adapte en fonction du moment, et là, sur l'événement aujourd'hui, on avait prévu des groupes, on avait prévu plein de choses, et puis tout ne se déroule pas comme prévu. Il y en a qui perdent de motivation. Il y a les finalistes sur lesquels on peut plus compter, et donc c'est surtout pour les chefs de groupe, c'est assez comment dire. Il faut se tenir au courant, et ça fait partie du challenge, quoi, d'organiser correctement l'événement, au mieux en tout cas, et voilà quoi.
Mais j'insiste sur l'idée du travail en équipe, parce que ça, vous apprenez ça, du coup, aussi à motiver une équipe.
Alors, oui, forcément, mais alors le travail en équipe, on est quand même bien mis dans le bain pendant les 2 ans, parce que dès la première année, on a presque une dizaine d'exposés à faire tout au long de l'année, et en deuxième année, c'est plus vraiment des exposés, c'est plus complet, mais pendant 2 ans, on est vraiment à travailler. Avec plus ou moins tout le monde, donc on connaît les personnalités, on connaît les affinités, on apprend vraiment à travailler en groupe, et que ce soit dans notre groupe, que ce soit même avec les autres formations, comme là aujourd'hui dans l'organisation, ou NU, mais comme travaille main dans la main pour organiser au mieux l'événement, et puis travailler main dans la main avec les professeurs aussi, c'est vraiment une aventure humaine.
C'est un travail sur soi aussi, parce qu'après tout, quand on travaille en équipe, on finit par se dire parfois peut-être « Ah bah j'ai pas toujours raison », ou alors peut-être que je suis un peu trop vif, peut-être que... Voilà, est-ce que c'est vrai ?
Bah c'est vrai, parce que c'est...
C'est comme demain sur le marché du travail, en fait. Ouais, c'est...
Voilà. Quand je disais la mise en contexte d'un événement qu'on pourrait être amené à organiser... c'est dans tous ces points-là, tous les petits points, on va dire, qui nous dérangent ou qu'on voit pas quand nous on assiste à un festival ou à un événement. On va à l'événement, on va au festival, on critique, on aime ou on critique, on dit ah, l'organisation elle est pas bien et tout. Mais là, c'est l'occasion de voir à quel point l'organisation d'un événement c'est difficile. Que ça soit le côté administratif, le côté humain, le côté réunir tout le monde au sein d'un même travail, réussir à déléguer tout ça, c'est vraiment, on va dire, le côté difficile de l'organisation d'un événement, quoi.
Et je pense qu'on se rend pas forcément compte tant qu'on ne fait pas vraiment de A à Z un événement. Enfin, pour ma part, en tout cas, en étant dans le comité d'organisation, c'est sûr que on se dit que c'est un petit événement et 300 personnes, et au final, il y a vraiment beaucoup de choses à gérer, et puis gérer les imprévus, c'est quelque chose, quoi.
Est-ce que ça rend modeste ?
Oui, forcément. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais... Je sais pas, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont faire pas grand-chose, qui vont prendre un peu les gens de haut, et d'autres qui vont penser faire tout et pas déléguer. Alors pas forcément des fois, parce que par manque de modestie, mais des fois, même moi, au début, j'avais du mal à déléguer. Je me disais, oh, ça va pas me prendre longtemps, et puis je préfère que ce soit fait par moi-même, parce que c'est, je suis sûr du résultat, et puis au final, on se rend compte que, comme dirait l'expression, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. Et pour moi, l'expression prend tout son sens dans un événement comme ça. Et alors voilà, pour répondre à votre question, peut-être que la modestie, pour tout le monde, non, mais en tout cas, pour nous deux, oui. Enfin, on a vraiment travaillé main dans la main, et même voilà, on se fait des petits groupes, et humainement, des fois, c'est en étant dans le dur qu'on trouve ceux sur qui on peut vraiment compter.
Sinon, d'un point de vue professionnel, est-ce que vous pensez que cette expérience, c'est un plus pour vos études ? Ça valorise aussi votre parcours ? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en avant dans vos futurs entretiens professionnels ?
C'est une ligne à rajouter sur le CV, l'organisation d'un événement comme celui-là. En plus, suite à la fin de nos études, on peut vouloir faire de la veille, donc si on a participé à un challenge d'envergure nationale spécialisé dans la veille, c'est vraiment un atout, je pense. Mais après, il n'y a pas uniquement la veille, parce qu'il y a l'organisation, donc création de contenu multimédia, donc ça, c'est vraiment des choses à mettre en avant sur nos CV, que ce soit création de vidéos, création d'infographies, ou création de chartes graphiques pour l'événement, création de logos. Il y a vraiment énormément de choses à mettre en avant. Et aussi, je pense que pour l'organisation, si on met qu'on a participé à l'organisation et qu'on a été investi dans un événement de cette envergure, c'est vraiment un atout.
Alors, juste pour compléter ta réponse, Tidi, quand je pense à Tidiane qui est juste à côté de moi, il a fait le logo, il a fait les affiches, il a fait les badges, il a fait le kakemono, enfin je vais pas faire toute la liste parce qu'il a fait beaucoup de choses. C'est des choses qu'on peut mettre dans un book, c'est quelque chose de concret. Alors moi, je sais que j'ai pas été sur le graphisme, mais même tous ceux qui ont géré l'organisation ou qui ont fait chacun leur pierre, enfin qui ont mis leur pierre à l'édifice, ben on peut tous le valoriser demain, même si c'est difficilement valorisable. Au moins, on sait que au fond de nous, on sait comment ça fonctionne, et on pourra, s'il y a un besoin un jour ou un autre ou l'autre, on pourra remettre en application ce qu'on a appris. Et voilà, donc au final, il y a une valorisation de soi-même, mais après, chacun la valorise à sa manière, sur son CV ou sur son LinkedIn.
Je pense que c'est aussi on peut se dire, on l'a fait et on a participé à cet événement, et c'est une satisfaction personnelle.
Ouais.
De se dire, tout ça, c'est un travail qu'on a tous mené ensemble, un gros, gros travail de groupe, pas juste un exposé qui réunit 5 personnes. Là, ça réunit aussi bien des personnes, toutes les personnes de la classe, mais aussi bien des personnes de d'autres formations, plus les professeurs, plus l'administration, plus... Donc c'est vraiment un beau travail, je trouve.
Mais je pense que ce sera un événement dont on se souviendra longtemps.
Bon, et puis quand même, parce que là, on parle beaucoup de travail, mais je crois qu'il y a une soirée festive qui est prévue à l'issue de cette journée. Alors, est-ce que, sans dévoiler tout quand même, mais est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire la fête ?
Alors, on aura une première partie avec les professeurs et les étudiants, mais ça se passe toujours très bien, d'après ce qu'on a pu entendre les années précédentes. Je sais pas ce qu'il y aura... Enfin, on n'a pas géré la soirée. On est plus sur l'organisation du jour J, mais je sais qui organise ça, et j'ai confiance en eux pour organiser une soirée digne de ce nom. Et puis, Et puis même si au pire des cas la soirée est pas très très bonne, je pense que tous les gens auront en tête la journée et ça sera un tout et je pense qu'on arrivera quand même à décompresser le soir et à s'amuser et à rendre mémorable cette journée pour tous. Du moins, j'espère.
Pour la soirée, il y a une retransmission en live sur...
Non, c'est juste sur l'annonce des résultats.
Ah, l'annonce des résultats.
Après, on coupe parce qu'on... Pour le matériel, je pense que c'est mieux.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'on pourra... n'importe qui pourra regarder le challenge.
N'importe qui pourra suivre sur la page YouTube un live qui retransmettra toute la journée. Donc, il pourra voir les performances de chaque IUT de France, enfin de chaque groupe qui représente les IUT de France, passer un par un. Puis ensuite, il y aura une retransmission des résultats des finalistes.
C'est ça, en fait, on a un lien YouTube qui est disponible sur Challenge la veille Tour. Enfin, il y a le site internet ou les réseaux sociaux, enfin, on a une page Facebook. Donc, tout sera communiqué dessus, enfin, même sur Twitter, enfin. On peut suivre l'événement, que ce soit juste sur téléphone ou même en vidéo, mais ça sera voilà, un live YouTube toute la journée. Donc en plus, même ça va nous apprendre à gérer un live YouTube et pour ceux qui vont, enfin l'équipe qui va gérer l'audiovisuel, c'est un plus. Et donc du coup, tout le monde peut suivre. Et puis on annoncera les résultats sur du coup un deuxième live YouTube, bon, toujours le même lien, mais un deuxième live parce que du coup, ça sera pas sur TLM même, ça sera dans le surprise. Mais du coup. Si on vous encourage à regarder si ça vous intéresse, même une prestation, voilà. C'est...
Voilà, donc là-dessus, vous trouverez ça sur cdlvtour2019.com. Voilà, et on rappelle aussi que l'événement à TLM n'est pas ouvert au grand public, donc faut pas débarquer à TLM.
Oui, c'est que réservé aux étudiants. C'est sûr que c'est un peu dommage. Je sais que on a plus ou moins, enfin on a tous des proches qui voudraient. Venir soit nous encourager, soit nous regarder, mais du coup, non, c'est réservé qu'aux étudiants. On est désolé, mais c'est comme ça le challenge.
Voilà, donc avis à vos fans, ils pourront toujours vous suivre sur les réseaux ou sur Internet.
Voilà.
Voilà, donc peut-être qu'on peut rappeler une dernière fois l'intitulé précis de cet événement, le Concours National d'Intelligence Économique Challenge de la veille. Voilà, c'est à Tours, c'est Salle TLM. Et c'est même ce 31 janvier 2019. Eh bien, il me reste à vous remercier, Lucas Lecomte et Tidiane Basile.
Merci à vous pour l'invitation.
Étudiant en DUT Information Numérique dans les organisations à l'IUT de Tours. Merci à vous et bonne soirée à tous. À l'écoute de nos excellents programmes.